Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Un naufrage terrifiant et un sauvetage épique. Kevin Escoffier, dont le bateau a été plié en deux par une vague géante avant de couler en quelques secondes, a pu être repêché par un autre concurrent du Vendée Globe, Jean Le Cam. Escoffier a passé une dizaine d'heures ballotté dans son radeau de survie, au milieu d'une mer glacée et démontée. Les deux hommes, le naufragé et le sauveteur, seront en ligne avec nous dans un instant. Autre invité, le nouveau prix Goncourt, Hervé Le Tellier, pour son roman L'Anomalie chez Gallimard. On va se réjouir avec lui du succès de cette histoire insensée, drôle et profonde, où les personnages à double vie rencontrent leur double. Dans l'actualité, la crise dans la majorité autour de l'article 24, Jean Castex et Gérald Darmanin ce matin devant les députés LREM, les vaccins, Pfizer dépose sa demande d'autorisation en Europe, nous irons visiter l'usine française qui va fabriquer un autre de ces vaccins, Moderna, et puis les ventes de voitures cette année avec un tournant majeur, plus d'un quart des véhicules vendus en France sont maintenant électrifiés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un sauvetage épique après une extraordinaire fortune de mer, en ligne avec nous depuis les 40e rugissants, à environ 1000 km du cap de Bonne-Espérance, le naufragé. Bonjour Kevin Escoffier.
Bonjour à tous.
Kevin, racontez-nous d'abord le naufrage. Votre bateau a été fracassé par une vague géante.
Bah en fait, c'est assez surréaliste. C'est la première fois, en fait, le bateau s'est cassé en deux. La mer était assez forte. Et en partant dans un surf, dans une vague, j'ai fait ce qu'on appelle un planté. C'est-à-dire que le nez du bateau est rentré dans l'eau, mais ça nous arrive très régulièrement. Et là, j'ai eu une sensation bizarre et d'un seul coup, un grand bruit. Et l'avant du bateau, en fait, s'est plié à 90 degrés autour du pied de mât. Et vous imaginez bien, comme le bateau s'est cassé en deux, si vous voyez le film Titanic, c'était un petit peu ça, quoi. L'eau, en une minute, est rentrée dans le bateau et j'ai pas eu beaucoup de temps de réagir. J'ai juste eu le temps de mettre ma combinaison de survie et de récupérer deux, trois affaires.
Ah oui, non, une minute, c'est plus rapide que Titanic, hein, je vous confirme.
Ouais, comme j'expliquais, le bateau, il s'est cassé en deux. Ça a duré, en effet, une minute, le temps que toute l'eau envahisse le bateau. Après, si ça se trouve, le bateau est peut-être encore entre deux eaux. Hein. Je ne sais pas s'il a complètement sombré ou pas. Mais dans ces moments-là, c'est pas facile de faire des choix. Voilà, c'est comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'un bateau se casse en deux comme ça. Je peux vous assurer que dans la vague, là, quand vous voyez l'eau qui envahit tout l'intérieur du bateau, qui coupe, forcément, ça coupe les batteries, le moteur, etc. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réagir et c'est assez impressionnant.
Et vous vous êtes retrouvé dans un petit radeau de survie, ballotté par une mer démontée dans une eau à 10 degrés.
Ouais, alors je ne sais pas combien était l'eau, mais bon, moi je suis de Bretagne Nord, donc ça ne m'a pas choqué, ça. Mais bon, je me baigne toute l'année, donc ça ne m'a pas choqué, mais non, mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans le radeau. Alors on fait pas le malin, hein. Et puis j'avais une balise, heureusement, dans mon ciré, ce qui a permis à Jean de me retrouver le soir. Et par contre, quand il est arrivé sur zone, la mer était tellement forte et il y avait tellement de vent que pour lui, c'est très dur de manœuvrer le bateau et on ne pouvait pas effectuer un transbordement à ce moment-là. Donc Jean est reparti pour pouvoir ajuster la toile et devenir manœuvrant. Et moi, j'ai passé la nuit dans le radeau à me faire bercer par les vagues qui venaient déferler sur le radeau. Puis on a attendu le petit matin pour réussir un transbordement qui était réussi, mais ça a été quand même assez chaud parce que les conditions, même si elles étaient meilleures, elles étaient toujours un peu compliquées quand même.
Ça a été très long sur le radeau en attendant de voir arriver Jean Le Cam.
Alors franchement, au début, quand vous avez des balises comme ça, vous envoyez un signal de détresse, mais vous ne savez pas si les gens l'ont reçu. Donc ça a été long. Quand j'ai vu Jean, ça m'a tout de suite rassuré un petit peu. Je me suis dit, c'est bon, ils ont le signal et ils sont dans le coin, ils sont à côté de moi. Et puis après, par contre, c'est vrai qu'il y a toute la nuit où, comme vous disiez, il ne fait pas super chaud. J'étais en combinaison de survie dans un petit radeau à se faire balloter avec les vagues qui viennent taper contre les côtés des radeaux, l'eau qui rentre. Donc je ne vous fais pas un dessin, c'est quand même... Voilà, mais il faut essayer de pas trop gamberger. J'ai essayé de rester positif, de me dire qu'on allait attendre. Je savais que les conditions sur zone allaient s'améliorer un petit peu, que ce qu'on avait eu, c'était le pire et que le vent allait mollir et la mer s'améliorer. Donc j'essayais de penser à ça et de me dire qu'il fallait juste essayer de rester à peu près chaud, de retirer l'eau du radeau, de boire un peu, de manger un peu les rations de survie et que le lendemain matin, de jour, tout se passerait mieux.
Jean Le Cam nous entend.
Il est juste à côté de moi parce que du coup, celle de la nuit a été compliquée pour tout le monde. Hein. Elle a été compliquée pour moi parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais lui, il a quand même dû ajuster, tourner sur zone. Et je peux vous assurer qu'avec ces bateaux-là en solitaire et les conditions, c'est compliqué aussi. Et là, il est en train de se raser. On a tous les deux dormi 2 heures. Vous pouvez lui parler si vous voulez. Vous voulez que je le passe ?
Ouais, je veux bien lui poser une ou deux questions. Merci, merci beaucoup, Kevin. Merci, bon courage pour la suite.
Bon, bonne journée. Merci
à vous. Oui, Jean Lecoq.
Allô.
Est-ce que vous avez eu peur pour Kevin Escoffier qui a disparu de votre vision après une première approche ?
À un moment, je me suis posé des questions. Alors, c'est sûr que quand tu cherches un peu une aiguille dans une botte de foin. C'est un peu le cas quand même, et que heureusement qu'il y avait la balise qui nous avait donné un repère, mais en fait, on s'aperçoit que c'était pas du tout précis, quoi. En plus de ça, je l'avais vu une première fois, donc bien vivant dans son radeau, et tu reviens au même endroit, si tu veux, je suis revenu 6 fois, et tu vois rien, quoi. Et tu vois plus personne, donc là, c'est à un moment, tu te dis à un moment, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, après, tu restes jusqu'au soir, t'as la nuit qui tombe, t'es debout sur le roof, en train de scruter partout où tu pourrais regarder, ne pas rater une opportunité de le retrouver. Ouais, c'est un peu stress quand même.
Alors, vous voici à deux sur un même bateau dans une course en solitaire. Que va-t-il se passer en pratique?
On n'a rien réfléchi du tout encore. Je sais pas. On va voir. On va réfléchir. On va déjà faire ce qu'il y a à faire et puis on verra après. Ah bah là, ouais, là on est à fond là. Et puis en avant les merlans.
Merci les merlans, Jean Lecam, Kevin Escoffier et bonne route, entretien réalisé grâce à notre spécialiste Corinne Boulou, Europe 1, il est 12h36, la politique, l'article 24 sur la sécurité globale ou comment s'en débarrasser. Jean Castex et Gérald Darmanin sont venus s'expliquer ce matin devant les députés de la majorité. Claudia Bertram, vous nous appelez depuis l'Assemblée nationale.
Oui, Jean Castex devant les députés de la majorité pour expliquer la feuille de route de la réécriture de l'article 24 annoncée hier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, également présent. Un premier échange a eu lieu hier soir à Matignon. Une méthode et un calendrier de travail ont été actés pour permettre que toutes les concertations nécessaires aient lieu, indique l'entourage du Premier ministre. Et ce matin, aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, la tension semble redescendre dans les rangs de la majorité. Le président de groupe, Christophe Castaner, et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, ont salué la qualité du dialogue avec le Premier ministre. Beaucoup d'interventions de députés ont commencé par, je cite, « Je ne vais pas revenir sur les événements des derniers jours ». Et à ceux qui s'inquiètent que l'article 25 du projet de loi séparatisme soit le débouché de l'article 24 réécrit, le Premier ministre répond ce matin, eh bien, que le véhicule législatif ne sera pas forcément ce projet de loi. Vous le voyez, une réunion qui semble bien apaisée, loin de la agitation des derniers jours.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite dans l'usine française qui va fabriquer l'un des 3 vaccins bientôt disponibles.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Avant de voir la suite de l'actualité, cette annonce, on apprend à l'instant la disparition d'une très grande dame de la chanson française qui a accompagné des générations d'enfants, qui a laissé et qui nous laisse des brassées de chansons magnifiques. Anne Sylvestre. Anne Sylvestre vient de mourir, chanteuse féministe à cause de ses engagements et chanteuse aussi pour enfants à cause de ses fabulettes. Une première évocation d'Anne Sylvestre avec Angèle Châtelier.
Anne Sylvestre est l'amoureuse des lettres, qu'elle étudie avant de se consacrer à la chanson. Née près de Lyon, installée ensuite à Paris, Anne Sylvestre reçoit le prix de l'Académie de la chanson française en 1960. Un an après, elle sort son premier disque, Anne Sylvestre chante.
Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne, je suis seule.
Anne Sylvestre est d'ailleurs qui chante d'abord dans les cabarets parisiens, avant d'arpenter les plus grandes scènes, l'Olympia en première partie de Gilbert Bécaud notamment, son succès d'alors, La Femme du Vent.
Fille folle, amante du vent, boucle ton corps.
En avance sur son temps, Anne Sylvestre était une femme engagée contre les minorités. Féministe aussi, ce qu'elle chante, elle prône l'avortement dans Non, tu n'as pas de nom.
Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense.
Et se moquait déjà avec ironie en 1979 de l'incapacité des femmes à prendre soin de leurs hommes. C'est la faute à Ève, disait-elle.
Adam, il est mal tombé.
Anne Sylvestre, femme de lettres, oui, qui chante aussi pour les enfants. Une grande amie également des nouveaux chanteurs à texte. Yves Jamais, Renan Luce, les ogres de Barba qui l'ont invitée. Anne Sylvestre était une femme empathique qui aura cajolé les gens qui doutent. Titre de l'une de ses chansons les plus connues.
J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais. Quand
Anne Sylvestre, les gens qui doutent, l'une de ses chansons les plus célèbres. Anne Sylvestre qui continuait, qui était active, qui s'est produit plusieurs fois en concert l'an dernier, qui devait à nouveau se produire à la Cigale en janvier. L'actualité donc, pour les vaccins, tout s'accélère. Ce matin, le labo américain Pfizer, allié à l'allemand BioNTech, ont déposé la demande d'autorisation de leur vaccin auprès de l'Agence européenne du médicament, avec l'espoir de sa diffusion en Europe dès la fin du mois de décembre. Victor Delande, pour Europe 1, vous avez pu visiter l'usine Recipharm, près de Tours, qui va bientôt fabriquer 20 millions de flacons multidoses pour un autre vaccin mis au point, celui de Moderna.
Oui, après avoir passé plusieurs sas de sécurité, on pénètre dans un immense hangar. Au fond, des caissons impressionnants, ce sont des congélateurs très particuliers. C'est là où sera conservé le vaccin Moderna.
C'est fermé à clé. Et la clé est bien gardée.
Patrick Lenoir, responsable des magasins chez Recipharm.
Dans un congélateur comme celui-là, c'est pas du moins 20 degrés comme on a dans son congélateur habituel, c'est du moins 70. Quand on va réceptionner les vaccins, il faudra les mettre dans le congélateur sans perte de temps, parce qu'il ne faut pas que les vaccins de moins 70 subissent un réchauffement.
Toutes les chaînes de production sont prêtes, les cuves, les flacons dans lesquels seront conditionnés le vaccin. Mais la formule, elle, restera secrète même pour les équipes de Recipharm, comme l'assure Claire Gamard, responsable commerciale.
On nous communique uniquement que les éléments dont on a besoin. Donc effectivement, typiquement, la partie secrète formulation, on n'en a clairement pas besoin pour la suite du process. Donc je pense qu'on ne sera jamais au courant de cette partie-là.
250 personnes travaillent habituellement sur ce site. 60 autres vont être recrutées spécifiquement pour le vaccin Moderna et les cadences seront accélérées.
Un projet de transfert d'un nouveau produit, ça prend généralement une bonne année. Là, effectivement, l'objectif, c'est d'être capable de le faire en quelques mois. C'est des timings qui n'ont encore jamais été vus.
Et l'objectif est clair, fabriquer 20 millions de flacons multidoses en 2021.
Merci Victor Delande. 126 000 voitures neuves ont été immatriculées en France en novembre. C'est un recul de 27% par rapport à l'an dernier. Mais le marché résiste nettement mieux qu'au printemps, lors du premier confinement. Et surtout, Aurélien Fleureau, les véhicules électrifiés, hybrides et électriques, représentent maintenant plus d'un quart des ventes.
Oui, et malgré la fermeture des concessions, les commandes passées avant ont pu être finalisées. Et cette tendance s'est encore accélérée. 26% des voitures neuves immatriculées, c'était à peine 1 sur 10 il y a tout juste un an. Alors c'est un chiffre mensuel, mais qui reflète la tendance générale des 11 premiers mois de l'année. Environ 20% du marché pour l'instant. Et décembre devrait encore amplifier le phénomène avec des modèles qui se vendent bien en ce moment, comme la Renault Captur E-Tech. C'est donc la version hybride rechargeable. Et puis il y a aussi l'effet nouveauté de l'ID3, la nouvelle voiture 100% électrique de Volkswagen. Le marché du tout électrique représente 6% à lui tout seul, en augmentation de 110% en un an avec la Zoé, leader en France. Le reste, ce sont donc des voitures hybrides comme la Toyota Yaris ou des hybrides rechargeables. Les consommateurs se sont adaptés à l'évolution de l'offre des constructeurs qui, eux, n'ont pas le choix puisque dès cette année, s'ils n'atteignent pas l'objectif CO2 fixé par la réglementation européenne, ils vont payer de lourdes amendes. Alors du côté des Français, Renault et PSA, a priori, on sera dans les clous. C'est bien parti. Ce ne sera pas forcément le cas pour tous les constructeurs allemands.
Merci Aurélien Fleureau. Près de Marseille, l'incendie d'un site de télédiffusion de France prive 3,5 millions de personnes de télévision et de radio. Diffusion de 25 chaînes de la TNT, de 19 stations de radio FM interrompues sur un grand quart sud-est du territoire. Le temps, Anissa Haddadi, le mauvais temps arrive dans le sud.
Oui, la perturbation de cette nuit et de ce matin est en train d'avancer vers le sud. Cet après-midi, du Pays Basque à l'Auvergne, le temps est pluvieux. Sur le nord-est, nous avons encore un temps perturbé, il n'y a plus de département en vigilance, mais attention aux chutes de neige à 500 mètres. Et puis au bord de la Méditerranée, le vent souffle, Mistral et Tramontane. Attention, en Corse, les averses vont prendre un caractère orageux cet après-midi. Les températures fraîches à l'est, avec 3 à Épinal, 4 à Belfort, 6 à Strasbourg, 10 à Paris, 11 à Lille, 13 à Marseille et 15 pour Biarritz.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, notre invité, Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour l'anomalie.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Prix Goncourt pour l'anomalie chez Gallimard, roman haletant, étonnant, drôle et profond. Le Goncourt dans votre vie d'écrivain, vous en aviez rêvé ?
Non, je n'avais pas envisagé une seconde.
Pas une seconde ?
Enfin, non, ça fait partie des. Enfin, quand on écrit un livre, on n'envisage pas du tout la course au prix. Mmh. On sait qu'on sort en. On sort en septembre pour être dans la rentrée littéraire. Et très bizarrement, c'est aussi pour l'idée de participer au prix, mais on n'a pas idée qu'on peut accéder au Goncourt et l'obtenir. Quoi. C'est fait pas partie des projets en général des auteurs, je pense.
Et le Goncourt sans tralala, sans la bousculade devant chez Drouhan, ni les effusions du salon du premier étage, c'est décevant ou frustrant ?
Comme on a le Goncourt qu'une seule fois, que je n'ai pas eu auparavant, je n'ai pas les éléments de comparaison. Pour ma part, la forêt de micro, ça ne me manque pas trop. La bousculade non plus, je suis J'étais presque content d'être en vidéoconférence avec les Goncourt. Je trouvais ça extrêmement calme, reposant. On pouvait dire ce qu'on voulait. On avait un petit peu de temps. Ça me paraissait plus simple qu'un discours improvisé sur un perron de manière un peu aléatoire.
Plus simple et plus serein, oui, sûrement. Alors, comment résumer votre roman sans gâcher le plaisir du lecteur? Vous nous présentez d'abord une galerie de personnages qui ont tous des problèmes ou des secrets, dont un écrivain, un certain Victor Meisel, qui intitule son dernier livre « L'anomalie » avant de mettre fin à ses jours et qui devient ensuite un écrivain culte. Il y a du Meisel en vous, Hervé Le Tellier?
J'ai construit le personnage de Meisel à partir d'amis. Qui sont soit vivants, soit décédés. Et y a un peu de Meisel en moi, dans le sens où le deuxième Meisel, celui qui réapparaît, puisqu'il y a une réapparition de Meisel dans un deuxième temps dans le livre, est plus proche de moi que le premier, sans doute. Il y a une distanciée ironique. Je pense être un petit peu comme ça. Le Meisel, en tout cas, suicidaire et dépressif du milieu du livre, c'est vraiment pas moi.
C'est vraiment pas par exemple, l'amertume du premier Meisel. Le petit monde de la littérature lui paraît un train burlesque où des escrocs sans tickets s'installent tapageusement en première avec la complicité de contrôleurs incapables, tandis que restent sur le quai de modestes génies. C'est ce qui...
Auquel Meisel ne pense pas d'ailleurs appartenir.
Mais est-ce que c'est ça, c'est un sentiment, en gros l'imposture quoi, hein. C'est un sentiment qui a pu vous effleurer jusqu'ici.
Tous les auteurs d'abord ont un sentiment un peu d'imposture, parce que qui va valider la littérature qu'à un moment donné... La chose agréable dans la réception d'un prix comme le Goncourt, c'est la validation par les pairs. Donc pendant quelques instants, pendant quelques mois, quelques années, on aura l'impression de ne pas être un imposteur. Mais il me semble que si les auteurs ne pensent pas être des imposteurs, ils ont du mal à écrire. Il faut pouvoir lutter contre cette sensation d'être un imposteur pour écrire à peu près convenablement. Il faut tout le temps surveiller sa propre écriture, être vigilant, faire du neuf avec une langue ancienne, parce que la langue dans laquelle nous évoluons est une langue qui est une langue banalisée par le langage, par l'écriture un peu, entre guillemets, du premier jet. Donc il faut absolument aller ailleurs. Et pour ça, pour aller ailleurs, il faut être un peu persuadé d'être un imposteur pour pouvoir justement... subjuguer.
Son éditrice, ce Meisel, trouve que le succès à 50 ans ou à 50 ans passés, c'est la moutarde qui arrive au dessert.
Oui, c'est une formule que j'ai volée à Raymond Queneau, qui, lorsqu'il a obtenu un succès inespéré avec
Zazie dans le métro,
a estimé que c'était un peu la moutarde qui arrivait au dessert. Je trouve que c'est une très belle formule. Pour ma part, c'est même pas à 50 ans, c'est à 60. Donc je vais faire revenir le gigot pour profiter de la moutarde.
Pour profiter de la moutarde. On va reparler de Raymond Queneau dans quelques minutes. Tous vos personnages, Hervé Le Tellier, partagent une aventure extraordinaire, un voyage en avion sur un vol Paris-New York qui traverse des turbulences dantesques, un orage épouvantable. Ça m'a fait penser tout à l'heure au récit du navigateur Kevin Escoffier. Des turbulences donc qui les font atterrir deux fois... À 3 mois d'intervalle, le même avion avec les mêmes passagers, le même équipage, tout est en double.
Oui, je voulais.
J'en ai dit assez.
On peut le dire comme ça. Je m'intéressais au thème du double. J'avais envie de faire un roman qui s'intéresse à ce qui se passe quand on est confronté à soi-même. J'ai voulu confronter beaucoup de personnes à elles-mêmes, donc il fallait quand même un véhicule dans lequel il y ait beaucoup de monde. Un avion était absolument idéal. Et j'ai eu envie d'avoir 5, 6, 7, 8 personnages. Et je me suis arrêté au moment où j'ai pensé qu'il y en avait presque trop. Donc je me suis juste arrêté à 8, puis j'en ai rajouté 2, 3 qui devaient suivre tout ça. Et je suis ces différentes identités qui sont toutes très, très différentes les unes des autres. Un tueur à gages, effectivement, une avocate, un écrivain, voilà. Et tous ont à des âges différents, ont des sexualités différentes, sont de genres différents, ont des couleurs de peau différentes, viennent de pays différents. Et toutes ces différences faisaient finalement que face à eux-mêmes, ils pouvaient avoir des réactions très différentes.
Oui, et certains ont des doubles vies, ce qui fait penser à la vieille blague de l'agent double qui se regarde dans une glace et qui forcément voit en quatre. Donc en plus,
certains ont des vies cachées, certains ont celui qui a la vie la plus cachée, c'est clairement le tueur à gages, mais d'autres ont des vies simples mais qui sont prises dans une sorte de trous médical, comme par exemple celui qui va tomber très malade et qui va mourir un certain nombre de fois, se regarder mourir. Et j'avais envie de traiter cette question d'être confronté non seulement à soi, mais parfois confronté à sa propre vie et à ses échéances qui sont celles de la finitude, qui sont celles de la déchéance. Mmh. Et donc les personnages se voient pour la première fois avec une certaine acuité. Vous parlez du miroir, mais les miroirs sont plutôt gentils avec nous, parce que quand on se regarde dans un miroir, on est toujours assez tendre et puis on essaye de s'apprivoiser. On essaye de trouver la manière de se regarder qui est la plus tendre possible. Là, c'est pas possible. On se regarde vraiment soi avec une dureté qui est unique.
Oui. Et surtout, il faut dire à ceux qui n'ont pas encore ouvert votre livre que ça ressemble pas à un délire fantastique. C'est-à-dire tout est précis, oui, logique. Rationnel même, d'une certaine façon, oui, c'est votre formation scientifique. Hein.
Je n'aime pas j'aime le fantastique. Je veux dire, tout le monde aime Kafka et la Métamorphose, mais ce que je voulais, c'était avoir un livre qui puisse reposer sur une possibilité scientifique. Et que cette possibilité scientifique assaye la thématique du roman de manière à ce que ça soit un peu plus vertigineux pour le lecteur et qu'il puisse se poser des questions non seulement sur ce que vivent les personnages, mais sur ce que c'est que sa propre vie. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est tangible? Est-ce que la table sur laquelle on tape existe? Et ça m'intéressait de poser ces questions-là.
On connaît votre goût, Hervé Le Tellier, pour les jeux littéraires. Vous êtes membre et même président depuis quelques années de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle créé par le Lyonnais Raymond Queneau.
Oui.
Qu'avez-vous mis d'Oulipien dans ce roman?
Alors avant toute chose, je voudrais embrasser Marie Scheck, qui est la sœur d'Anne Sylvestre. Oui. Et Marie Scheck, c'était la compagne d'un Oulipien, Harry Matthews, qui était le meilleur ami de Georges Perec. Donc évidemment, la disparition d'Anne Sylvestre me touche. Ce qu'il y a dans ce livre d'Oulipien, c'est avant tout le jeu, qui est celui sur les différents... fils narratifs qui sont à chaque fois associés, j'associe à chaque fois dans ce livre les genres et les personnages. Donc quand on commence un chapitre comme un roman noir, c'est que je vais parler forcément du tueur à gages. Lorsque je commence un chapitre comme un roman sentimental, c'est qu'il va y avoir ensuite une petite histoire, un peu chiclite, comme on dit, littérature pour jeunes filles. Et quand je fais un roman, disons... quand je fais arriver mon personnage d'écrivain, j'essaie de lui donner un livre à l'intérieur, une littérature un peu blanche, un peu assurant, de manière à ce que ce personnage existe. Il me semble que le jeu qui existait au niveau oulipien, c'était un jeu de partenariat entre mes personnages et le style dans lequel ils sont insérés.
Absolument.
Au fur et à mesure que le livre avance, je fusionne tous ces styles pour faire un livre unique, mais la première partie est une partie de genre où je joue avec les genres littéraires.
Absolument. Le premier personnage que vous décrivez, Blake, le tueur à gages, ça...
C'est du Manchette.
Exactement. C'est du Jean-Patrick Manchette. C'est écrit comme un polar avec la nervosité du polar.
Oui, j'adore jouer avec ces genres.
Le grand roman oulipien qui a pu... influencer ou inspirer votre anomalie
C'est un livre d'Italo Calvino. Si je dois prendre un des romans, ça serait vraiment ce livre dans lequel Calvino aborde la question du genre à travers des expositions. Il commence dans « Si par une nuit d'hiver un voyageur », il commence chacun de ses chapitres par un début de roman, tous différents. Il y a un roman japonais, un roman à la française, un roman à l'allemande, un roman presque un policier. Et à chaque fois, il emmène son lecteur dans une histoire qu'il abandonne en cours de route pour faire la démonstration de ce que c'est que la frustration des lecteurs et de la disparition des mondes. Moi, j'avais envie d'un livre différent dans lequel je ne frustre jamais le lecteur et où j'aboutisse chacun de ses projets dans une tresse, en tressant tous les personnages ensemble.
Merci beaucoup Hervé Le Tellier.
Merci à vous.
J'espère qu'on aura fait aimer, ou donner envie à ceux qui nous écoutent de lire cette anomalie chez Gallimard, prix Goncourt 2020. Bravo encore et merci.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h, Christophe Lamar, puis La France bouge. Bonne journée.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.